Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, 4 novembre 2019. Oui, Nick Payne au microphone, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons de la belle visite en studio. Nous allons donc débattre de la question de ce que devraient faire les souverainistes à ce moment-ci, en 2019, peut-être de ce qu'ils auraient dû faire aussi dans le passé. Mais en tout cas, on va surtout se tourner vers l'avenir. Là-dessus, nous allons également, un peu plus tard, discuter du test des valeurs du gouvernement Legault avec l'avocat spécialisé en droit de l'immigration, Stéphane Hanfield. Et nous allons aussi jaser avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui était à ce micro il y a quelques mois à peine, pour parler de sa nouvelle expérience de député. Mais donc, la belle visite dont je vous parlais il y a un instant pour débattre de la suite des choses pour les souverainistes et les indépendantistes et peut-être les nationalistes québécois, bien, c'est d'abord Martine Ouellette, ancienne députée du Parti québécois, ancienne chef du Bloc québécois, écologiste, souverainiste. Martine Ouellette, vous avez aussi fait une longue carrière à Hydro-Québec, je crois, et vous publiez bientôt un livre dont on parlera tout à l'heure, là, dont j'oublie
oui,
le titre.
Oui, sur le climat horizon 2030, choisir un Québec climato-économique.
Alors, on y revient après notre discussion. Et Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur, essayiste, grand souverainiste devant l'éternel, vous aussi.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, notre discussion aujourd'hui émane d'un échange que vous avez eu par texte interposé dans le Journal de Montréal. Martine Ouellette, pour résumer ça le plus rapidement possible, vous vous êtes présenté deux fois à la chefferie du Parti québécois. Vous avez aussi été chef du Bloc, toujours en tenant ce même discours qui est de dire que l'attentisme, en fait, c'est-à-dire l'attente des conditions gagnantes, le fait pour les souverainistes, que ce soit au Bloc ou au PQ par ailleurs, de se présenter en élection en disant « ben l'indépendance, ça sera pour plus tard. Pour le moment, voici ce que nous voulons faire. Dans le cas du Parti québécois, ce serait le bon gouvernement qui aidera à faire advenir les conditions gagnantes, par exemple. Et dans le cas du Bloc, ben c'est un peu ce que promettait Yves-François Blanchet cette fois-ci.
Donc, de défendre les intérêts de la province du Québec à l'intérieur du régime canadien.
À Ottawa. Alors, vous dites donc, essentiellement que ça, c'est une espèce de perte de temps et c'est pas très bon pour les souverainistes.
Ben, en fait,
et quand on vous a interrogé sur la victoire bloquiste récente, vous avez tenu encore une fois ce propos-là.
En fait, je dis pas que c'est une perte de temps. En fait, je dis que ce sont deux projets différents. De vouloir le pouvoir provincial pour agir avec le pouvoir provincial dans le régime canadien ou de défendre les intérêts de la province du Québec dans le régime canadien, c'est de travailler à l'amélioration du régime canadien. L'indépendance, c'est de travailler à sortir du régime canadien. Ce sont donc deux projets qui sont complètement différents. Et de penser qu'un va mener à l'autre, que parce qu'on va améliorer la province du Québec dans le Canada, ça va nécessairement mener à l'indépendance, je pense que c'est une grosse, grosse erreur de logique parce qu'au contraire, si c'est possible d'améliorer la province du Québec à l'intérieur du Canada, bien, un grand nombre de personnes, c'est ce qu'ils vont choisir. Et je dirais avec raison, le problème, c'est que ça n'arrivera pas, ça n'est jamais arrivé. Et c'est le contraire actuellement. Le Québec recule à l'intérieur du Canada. Et j'ai toujours présenté l'idée justement, que ce n'est pas en ne parlant pas d'indépendance qu'on va faire avancer l'indépendance. Ce n'est pas en ne parlant pas d'une idée qu'on va faire avancer l'idée. Je donnais souvent l'exemple, imaginez un chef du Parti vert qui dit, écoutez, moi, dans le prochain mandat, je ne vais rien faire pour l'environnement. Puis, en plus, là, ayez pas peur, je ne vais pas mettre une scène pour protéger l'environnement. Et même, je vais travailler en collaboration avec les pétrolières. C'est absurde. Vous comprenez? On le voit quand on parle d'environnement, mais c'est bizarre que quand on parle d'indépendance, cette absurdité-là, on achète une espèce de logique tordue qui va nulle part. Là.
Alors, on va voir ce que dit Mathieu Bock-Côté. Vous, Mathieu Bock-Côté, vous avez répondu à Martine Ouellette, ce qu'aurait répondu Pauline Marois, Jean-François Lisée, Yves-François Blanchet. Ben, c'est-à-dire, vous lui dites, mais vous allez compléter, améliorer, préciser et me corriger, mais vous dites essentiellement... Ou comme un Joseph Facal, par exemple, qui est dans la grande famille souverainiste, qui écrit dans le Journal de Montréal aussi, que ce que propose Martine Ouellette, c'est-à-dire l'indépendance comme priorité première au-dessus de toutes les autres et avant, pendant et après les élections, on s'engage à la réaliser essentiellement. Vous dites, ça mène à une impasse. Les souverainistes ne peuvent pas gagner avec ça. Ils vont se mettre à dos les Québécois qui ne veulent pas en entendre parler. Mais ça m'inspire une question, ça. c'est ce que vous prônez, vous, donc, c'est-à-dire une forme de repli vers un nationalisme qui lui permettrait d'être le marchepied pour ensuite aller à l'indépendance. Est-ce que c'est pas justement ce qu'essaient de faire les souverainistes depuis presque 25 ans maintenant, avec les résultats peu reluisants qu'on connaît?
Alors, je ne suis pas certain que vous présentez adéquatement ma position, donc je vais la reformuler dans mes propres mots.
Je m'en doutais bien.
Le premier élément, évidemment, Martine Ouellette est parisiste, si je peux me permettre l'image. Je le suis aussi, vous l'êtes assurément. Nous sommes tous parisistes. Mais ensuite, à tout le moins, nous sommes tous... L'indépendance du Québec, je la veux en 1759, je la veux en 1760, je la veux en 1837, 1838, je la veux en 1995. Donc, ce n'est pas une question d'être plus pressé ou moins pressé. C'est une question de penser le moment historique qui est le nôtre en ce moment. Il se trouve qu'en ce moment, au Québec, il y a... Nous sommes contemporains de la fin du cycle souverainiste. J'entends par là que le débat public s'est reconstruit à partir de la fin des années 60, milieu, fin des années 60, autour de la question de la souveraineté. Chaque élection était en quelque sorte un référendum implicite. Le débat public était structuré, êtes-vous souverainiste ou fédéraliste? Et ce débat qui était capable de traduire qui nous a un peu perdus, soit dit en passant à certains égards, parce que les nationalistes québécois se sont divisés en deux grandes familles, les indépendantistes et les autonomistes, et pendant ce temps-là, la frange la plus minoritaire, les trudeauistes, ont été capables d'imposer leur volonté aux Québécois, qui, dans leur immense majorité, à tout le moins, voulaient plus de pouvoir pour le Québec, un nouveau statut pour le Québec. Mais quoi qu'il en soit, ce débat souverainiste-fédéraliste traduisait quand même là où la population se situait à bien des égards. C'est-à-dire que ça traduisait les enjeux réels qui traversaient la société québécoise. Ce débat, à partir du début des années 2000, a commencé à se déréaliser. Et de plus en plus, les Québécois étaient à la recherche d'une autre option politique pour être capable de traduire leurs préférences collectives, sans pour autant renier le principe du Québec d'abord. Donc, il y a eu le flirt adéquiste, ensuite, il y a eu la montée de la CAQ qui a pris son temps. Mais ce qui était évident, me semble-t-il, depuis le début des années 2000, c'est que les Québécois, de moins en moins structurer leurs préférences collectives autour du débat souverainiste fédéraliste, mais ne voulaient pas pour autant renier le nationalisme. Et ce qui s'est passé, je crois, aux dernières élections, c'est qu'on a fermé pour un temps, et je m'en désole, moi je suis un indépendantiste incandescent, mais on a fermé le cycle souverainiste tel qu'on l'a connu depuis la Révolution tranquille, donc le premier référendum qui en appelle un deuxième, qui en appelle un troisième, puis on va gagner le quatrième, puis là ça va être beau. C'est un nouveau cycle politique qui a commencé. C'est-à-dire qu'on s'est délivré d'un souverainisme impuissant, technocratique, qui fonctionnait selon le principe du progressisme obligatoire, incapable d'assumer la dimension identitaire du projet national. Hein. Les souverainistes étaient quand même très doués pour tatawiner sur la question de l'identité, pour le dire avec un concept philosophique. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a une forme de, paradoxalement, de sursaut nationaliste au Québec en ce moment, qui est porté par le gouvernement Legault. Un sursaut nationaliste qui est porté par... ce que j'appelle le détour autonomiste. Donc les Québécois ne font plus la marche en ligne droite vers l'indépendance, et plus encore, le gouvernement Legault, à la différence des souverainistes post-référendaires que vous évoquez, parce qu'on le sait, quand Pauline Marois, quand Jean-François Lisée disait « on va faire autre chose », on les croyait pas. C'était les souverainistes. Par définition, si qu'ils essayent quelque chose d'autre, c'est pour que ça échoue, pour qu'on puisse enfin sortir du Canada. Là, avec le gouvernement Legault, ce qui se passe...
Mais c'est là le parallèle. C'est là que je dis que vous souhaitez essentiellement la même chose.
Oui, mais c'est qu'un instant, c'est que moi, peu importe ce que je souhaite, c'est que j'essaie de regarder ce qui se passe au Québec, au-delà de mes préférences personnelles. Et ce que je vois, puis je termine là-dessus, c'est que en ce moment, il y a un renouveau nationaliste au Québec, et ce renouveau nationaliste-là s'est centré sur la question identitaire, et il pose la question du régime. Il pose la question du régime, c'est-à-dire qu'en posant la question de la laïcité, de l'identité, du multiculturalisme, on frappe au cœur du régime canadien. Donc, peut-être pas demain, mais tôt ou tard, et plus tôt que tard, il va y avoir ce qu'on a connu dans les années 90, une vraie crise de régime qui va rappeler la contradiction fondamentale entre l'adhésion première au Québec, le Québec d'abord, et le maintien du lien fédéral. Et moi, je suis convaincu d'une chose, et je pense pas que François Legault est un super stratège qui dissimulerait son souverainisme en cachette pour provoquer la crise. Je crois qu'il est sincère dans son autonomisme. Je crois qu'il est sincère dans sa défense de l'identité dans le cadre canadien. Mais, je crois que sans le vouloir, il nous conduit à la crise. Sans le vouloir, parce que dès que le Québec se remet à agir, dès que le Québec recommence à bouger, dès que le Québec recommence à s'affirmer, il crée une logique de tension dans le régime fédéral. Je crois que les indépendantistes, dans tout cela, ne doivent pas sermonner ceux qui font le pari de l'autonomisme, doivent les accompagner en plaidant pour que ça aille toujours plus loin, mais ils doivent participer au débat public en ce moment, non pas sous le signe de la pédagogie souverainiste parallèle seulement, mais doivent brandir l'idée d'indépendance, évidemment, mais doivent accompagner ce mouvement qui, inévitablement, nous mène à la crise, qui permettra ensuite de gagner. gagné.
Ah, vous avez couvert beaucoup de terrain, ce qui fait que Martine Ouellet a couvert beaucoup de papiers, presque un cahier Canada au complet, si j'ose dire.
Oui, j'aimerais mieux les cahiers Québec,
un
par exemple.
Un cahier Québec. Par où on prend ça? Alors, il y a le vieux serpent de mer de la crise, c'est-à-dire en provoquant des refus du Canada ou en démontrant l'inadéquation du statut de province, on suscitera l'indépendance. Qu'est-ce que vous pensez?
Moi, je pense que c'est d'oublier l'histoire, parce qu'il y en a eu des crises dans le passé, et ça n'a pas été suffisant. On n'est toujours pas encore un pays. Et le problème, des crises là, potentielles, des scandales, il y en a là, régulièrement. Certains tournent en crise, d'autres non. Moi, je peux vous parler des sièges sociaux, je peux vous parler de la dévie, je peux vous parler effectivement de la laïcité. Il y a aussi l'environnement, qui est une autre façon de voir les choses. Très grande crise qui s'en vient avec le Canada pétrolier et le Québec qui veut être environnemental.
Il y a eu la loi sur la clarté, plutôt...
La loi sur la clarté, mais c'est ce que je veux dire.
La loi sur la clarté référendaire là, de Stéphane Dion.
Si on n'a pas une équipe qui est prête à réaliser l'indépendance, qui en a parlé, qui l'a préparé, qui est légitime pour la réaliser. Moi, je peux vous parler de 82, le rapatriement de la Constitution. Il y avait une crise, mais René Lévesque avait abdiqué sur l'indépendance à cette époque-là. On peut se parler du lac Meech en 90, mais c'était Robert Bourassa et ceux qui croyaient que Robert Bourassa voulait faire l'indépendance, mais c'est comme, pour moi, c'est comme ceux qui croient que Legault va faire l'indépendance.
Mais cela dit, il y a eu une vague indépendantiste très forte après cet échec du lac Meech.
Lorsque les gens disent que le référendum de 95 qui fait son succès, c'est le lac Meech. Je pense que les gens ont oublié. Moi, je suis allée revoir les statistiques. À l'automne, mois d'août 94, juste un peu avant les élections de Jacques Parizeau et son équipe, l'indépendance était retombée à 32 % plus basse qu'actuellement. Et c'est ce qu'est-ce qui a fait le quasi-succès de 95? C'est la détermination sans faille de Jacques Parizeau. Je vous dirais même à l'encontre de certains membres de son caucus et de son conseil des ministres qui voulaient reporter le référendum par peur. Il a fallu qu'il combatte les peurs à l'intérieur même de son caucus qui a fait en sorte qu'on a eu le quasi-succès. Donc, c'était la préparation, c'était la volonté. Et oui, il faut, je crois, le mouvement indépendantiste doit se tenir debout. Ne doit pas éviter les crises comme trop souvent il le fait dans le passé, tant le Parti québécois que le Bloc québécois, qui, ne voulant pas déranger, ne voulant pas provoquer de crise, se sont à plat ventre sur des questions de la langue, sur des questions d'identité, sur des questions environnementales, des questions économiques.
Alors, vous êtes d'accord pour dire que les souverainistes ont échappé un peu le ballon de l'identité puis du nationalisme?
Les souverainistes, ne voulant pas dans le passé, pendant plusieurs années, entre 95 et aujourd'hui, je vous dirais, n'ont pas voulu déranger au Québec et au Canada. Donc, ne s'en sont pas tenus debout. Donc, moi, je pense qu'il faut faire face aux crises. Mais je ne crois pas que ce soit la responsabilité des leaders indépendantistes de provoquer les crises. Mais oui, les crises arriveront. Puis pourquoi ces crises-là arriveront? Parce que le Québec et le Canada sont deux choses complètement différentes et on ne va pas dans la même direction. Donc, c'est clair qu'il y aura des crises, qu'il y aura des scandales. Certains viront en crise ou non. Et je voudrais juste, parce que Mathieu a fait toute une analyse que je ne partage pas nécessairement de ce qui s'est passé dans le passé, et je reviendrai sur un point, je pourrais revenir sur plusieurs, là, mais je reviendrai sur un point lorsqu'il dit que il y a les trudeauistes fédéralistes, que moi j'appelle canadianistes, et de l'autre côté, ça s'est divisé en indépendantistes et autonomiste. J'ai beaucoup de difficultés avec ce vocabulaire-là, autonomiste, parce que dans le fond, autonomiste, si on est complètement autonome, on détient 100 % des pouvoirs, donc on est un pays. Et donc, moi, je trouve que François Legault est dans la même ligne que Bourassa et il est très provincialiste. Ce qu'il veut, c'est d'améliorer la province du Québec à l'intérieur du Canada. Il demande à peine des nouveaux pouvoirs au gouvernement canadien. Et j'ai même lu dans certains articles de Mathieu que même lui doute de savoir s'il va aller jusqu'au bout
Moi, je ne suis pas l'avocat
de François. Vous avez dénoncé le test des valeurs, par exemple.
L'immigration.
Politique décevante.
Moi, je ne suis pas l'avocat de François Legault, qu'on se comprenne bien.
Vous dites qu'il va en manifestant...
Avec la loi 21. Il vient de créer les conditions. Je suis persuadé que ce n'est pas ce qu'il veut. Mais avec la loi 21, il a créé les conditions d'une crise de régime. On le voit au Canada anglais, ça commence déjà à bouger. Pour le Canada anglais, lorsque le Québec se rappelle qu'il est un peuple, pardonnez-moi, et non pas seulement un résidu ethnique dans la diversité canadienne, il est accusé de suprémacisme ethnique. Quand les Québécois se rappellent qu'ils sont une nation, ils sont accusés de piétiner les droits des minorités. Hein, c'est la vieille, le régime de 82 est fondé sur cette idée de Trudeau, fondamentalement, qui dit que les Québécois laissés eux-mêmes se transformeraient en ethnocratie autoritaire et terrifiante, et on a besoin du cadre fédéral canadien pour nous civiliser, hein, pour nous démocratiser de l'extérieur. Ça, c'est la thèse fondamentale du Trudeau.
Comme si de leur côté, ils étaient plus blancs.
Mais bien sûr. Alors moi, je vois le régime canadien pour ce qu'il est, c'est-à-dire un régime qui fondamentalement programme la dissolution du peuple québécois. Mais je regarde où les Québécois sont en ce moment.
Oui, non, le
nationalisme québécois, historiquement, n'a pas toujours été souverainiste. Je m'en désole, mais c'est ainsi. Il y a eu des moments
en fait, la plupart du temps, il ne l'a pas été.
C'est plus compliqué. La tentation de l'indépendance, c'est toujours là.
Qui intègre le cadre
canadien.
Vous
savez, Maurice Séguin a trouvé une façon de définir, parce qu'il y a deux sortes de nationalisme au Québec, puis on les mélange tout le temps, et ça crée beaucoup de confusion. Il a parlé du nationalisme incomplet, qui, par exemple, de vouloir rapatrier l'agriculture à l'époque, qui était un pouvoir important, et le nationalisme complet. Il dit tout nationaliste complet ne peut être que séparatiste. Aujourd'hui, moi, avec les mots d'aujourd'hui, je dirais bien, il y a des demi-nationalistes parce qu'actuellement, le Québec a tous les attributs pour être une nation, mais on n'est pas encore reconnu comme tel. On n'est pas encore un pays, on n'est pas encore aux Nations Unies. Fait qu'on est comme une demi-nation, une nation en devenir. Mais donc, il y a des demi-nationalistes et il y a des nationalistes.
Mais on n'a pas à se convaincre en nous de la nécessité de l'indépendance. Je pense
justement,
qu'on en est tous convaincus.
Moi, ce que nous presse,
c'est qu'il y a le lead en ce moment au Québec du nationalisme, il est porté par les autonomistes. Qu'on soit d'accord, qu'on les appelle comme ça ou non, eux sont convaincus d'être sincères, eux croient, pour la plupart, soit dit en passant, pas la plupart, mais plusieurs, c'est des indépendantistes désespérés qui disent « J'aurais voulu que ça se fasse, je voudrais que ça se fasse, mais ça se fera pas, faut au moins sauver l'essentiel. »
Vous en êtes.
Non, parce que moi, je pense que ça va se faire un jour. Ça, la différence est là. Mais je crois que cette position-là, elle est légitime. Se dire, c'est on est vraiment dans la merde, c'est foutu, faut sauver l'essentiel, faut se remettre à bouger. Et je crois qu'en ce moment, dans les circonstances, il faut accepter ce moment autonomiste-là, mais les indépendantistes n'ont pas à s'y fondre, évidemment. Les indépendantistes n'ont pas à dire la même chose. Ils doivent faire la promotion ardente de l'indépendance, mais ils doivent contribuer, par exemple, dans le cas du Bloc, la récente élection fédérale. Moi, que le Bloc ne transforme pas la Chambre des communes en lieu pour dire il faut détruire le Canada, je le comprends très bien, mais qu'il travaille à une critique du régime.
Non, mais là, c'est exagéré. Là. Non, c'est... Il faut détruire le Canada. Non, mais c'est parce que je pense qu'il faut faire attention. Comme si vous me disiez que je dis qu'il faut détruire le Canada. Je n'ai jamais dit ça.
C'est un clin d'œil. Il faut détruire Carthage.
C'est pas un clin d'œil. S'il ne faut pas détruire le Canada, il faut sortir du Canada. Et ce n'est pas en travaillant à l'intérieur du régime canadien qu'on va pouvoir avancer.
Mais là, on pose la question.
C'est juste un clin d'œil sur la fameuse phrase « Il faut détruire Carthage » dans chaque discours. Moi, ce que je dis, c'est...
On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que c'est... Puis, j'ai pas vu personne au Québec dire que c'est il fallait faire des incantations comme ça.
Ça en a l'air pourtant.
Ben non, pas du tout.
Attendez, laissez-moi faire un peu mon travail ici. C'est vrai, Martine Ouellet, qu'il y a une question spécifique qui se pose en ce qui regarde le Bloc québécois. Comment le Bloc peut-il, lui, être un parti souverainiste puisque il dit lui-même ça ne se fera pas à Ottawa. Effectivement, on peut penser que...
Ça peut se préparer à Ottawa. Et si on le prépare chacun dans tous les domaines possibles, c'est vrai que la souveraineté va se décider à Québec. Ça, il n'y a personne qui remet ça en doute. Mais si on ne la prépare pas d'ici là, et si on travaille à l'intérieur du régime canadien, bien, on laisse entendre à l'ensemble de la population québécoise que c'est possible d'améliorer le régime canadien. Et ça, c'est complètement contre-productif. Et quand on dit sauver l'essentiel, moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. On va sauver l'essentiel. En voulant toujours sauver l'essentiel, on ne réalise pas justement l'essentiel qui est de faire l'indépendance. Ce n'est pas en restant à l'intérieur du Canada qu'on va sauver l'essentiel.
Ni vous, ni moi, n'avons le monopole du nationalisme. J'entends par là qu'il y a des nationalistes sincères qui font d'autres choix stratégiques que les vôtres et que les miens. Ces gens-là se retrouvent aujourd'hui, pour la plupart, à la CAQ, mais pas seulement. Et ces gens-là croient bien servir le Québec en se disant que, sachant que le grand soir de l'indépendance n'est pas pour demain ni après-demain, il faut au moins conserver ce qu'on appelait après les patriotes, on appelait ça conserver la nationalité. Puis je comprends, moi, que quand l'indépendance n'est pas possible à court ou moyen terme, on se faut au moins sauver la nation. Pour moi, c'est un choix qui se comprend.
Mais d'accord, attendez.
Mais pour moi, elle n'est pas possible à court ou à moyen terme.
Parce que si on fait un référendum, on se fracasse à 38%.
Alors voilà, bon, là, on est sur le cœur du sujet. Mathieu Bocoté, pourquoi vous pensez...
Actuellement, l'indépendance recueille plus d'appui qu'au mois d'août 94. En 95, ça a été un quasi-succès.
Mais attendez, donc, s'il vous plaît,
permettez-moi d'animer... Je connais cette théorie. C'est-à-dire que vous croyez qu'automatiquement, ça va monter.
Reprendre le contrôle de mon émission.
38 peut devenir 28 plutôt que 48. Hein.
Pas automatiquement monter. vous regardez les exemples. Puis quand vous dites là que les dernières campagnes électorales étaient des campagnes quasi référendaires, pas du tout. Depuis 1995, jamais le Parti québécois a dit qu'il réaliserait l'indépendance dans le prochain mandat.
Non, mais Laissez-moi juste finir.
Ben pas tant que ça, non, pas vraiment, parce que justement, c'était pas à l'ordre du jour. Et lorsqu'on regarde les campagnes référendaires et même les campagnes électorales où l'indépendance était à l'ordre du jour, on regarde même en Écosse, l'indépendance augmente. Lorsqu'on parle d'une idée, cette idée-là se propage dans la population. Ça, il y a aucun doute. Est-ce qu'elle ira à un niveau suffisant pour qu'on puisse la réaliser? Ça, c'est l'enjeu.
Mais c'est vrai que cet enjeu-là...
Mais c'est très clair qu'en n'en parlant pas, ça n'avancera pas et ça ne peut que reculer.
S'il vous plaît, c'est vrai que cet enjeu-là a été un facteur de clivage électoral, en tout cas pendant toutes ces années-là, même si l'indépendance n'était pas à l'ordre du jour du Parti québécois, par exemple, Martine Ouellette, s'identifiaient par rapport à cette
C'était un clivage, mais il y a bien des gens. Moi, je peux vous dire qu'en 2014, par exemple, où j'ai vraiment analysé les résultats parce que j'ai failli perdre ce soir-là, bien, il y a 3000 personnes qui ne sont pas venues voter en 2014, qui ont voté en 2012. Et ces gens-là, j'ai perdu 3000 votes. Ils ne sont pas allés à la CAQ, ils ne sont pas allés à Québec solidaire et certainement pas au Parti libéral. Ils sont juste restés chez eux. À chaque fois, vous voyez le taux de participation baisser aux élections et les derniers taux de participation étaient quand même assez bas. L'élection fédérale aussi était très bas, 65-67%. Ben à ce moment-là, il y a bien des gens qui restent chez eux qui ne vont pas voter. Il faudrait bien savoir ces gens-là pour qui auraient-ils voté.
Mais là, je vous repose la question de départ tous les deux parce que le temps file. C'est la même question ce sont les deux faces de la même médaille. Martine Ouellette, pourquoi pensez-vous, contrairement à la vaste majorité des gens du cercle souverainiste, péquiste et bloquiste, qu'on peut mettre l'indépendance de l'avant et faire recette électorale suffisamment éventuellement pour prendre le pouvoir? Et Mathieu Bocoté, à l'inverse, pourquoi êtes-vous si certain de ce que toute démarche franchement indépendantiste, là, soit voué à l'échec? Vous parlez de cette crise qui pourrait survenir du fait que le Québec s'affirme à l'intérieur du Canada. La dernière fois que c'est arrivé, il y avait des indépendantistes crédibles dans le portrait derrière Jacques Parizeau.
Je ne conteste pas ça un instant, c'est pour ça qu'il y a une forme de malentendu. Je crois que les indépendantistes doivent être des indépendantistes, mais ils doivent
constater... Oui, mais s'ils se présentent en élection en disant « Vous inquiétez pas, ce sera la prochaine fois », comme dit Martine Ouellette.
Je pense pas que le Parti québécois est dans cette situation-là aujourd'hui. La campagne de 2018 était une mauvaise campagne. Évidemment, plutôt que l'indépendance, on a pris des boîtes à lunch. Donc, il y avait quelque chose d'un peu gênant dans cette politique. Mais je crois qu'il y a des tendances lourdes en ce moment, une forme de décomposition relative de la conscience nationale, mais qui revient, cela dit, par le détour autonomiste, je le redis. Il y a des réalités démographiques que les souverainistes refusent d'affronter.
Les souverainistes de Québec solidaire ne seraient pas d'accord avec vous. Il y en a quelques-uns, vous allez me dire, qu'ils ne sont pas nombreux.
Si Québec solidaire fait l'indépendance, moi, je deviendrai danseur à claquette. Il y a quelque chose là-dedans, on est devant un parti qui intègre l'indépendance dans son cocktail, mais ce n'est pas sa raison d'être, fondamentalement.
Oui, non, mais il y a quand même des héritiers, disons, de Bourgault, qui sont plutôt de ce côté-là, qui sont indépendantistes.
Ils sont minoritaires dans leur tendance. Mais je reviens sur le fond des choses.
Mais ils sont chez eux, en tout cas, s'ils ne sont pas Québec solidaire.
Il y a quelque chose qui me semble fondamental, c'est que les Québécois, en ce moment, tel qu'on les prend, le peuple tel qu'on l'a plutôt que tel qu'on le souhaite, les Québécois sont prêts à... On recommence à marcher dans une perspective que l'on dit autonomiste. Le rôle des indépendantistes dans tout cela, c'est évidemment de faire la promotion de l'indépendance, c'est évidemment de préparer les cadres, préparer tout ce qu'il faut, mais c'est aussi d'accompagner les Québécois tels qu'ils sont, plutôt que de leur répéter sans cesse qu'ils sont dans l'inachèvement et l'incomplétude. Il faut participer à la crise de régime, travailler à la provoquer, s'y préparer. Mais si on explique tout simplement...
Alors comment des indépendantistes peuvent-ils mieux y participer qu'en étant...
vous me permettez. Donc,
Martine, il faut répondre à ma question. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est possible, vous?
Ben moi, ce qui me fait croire que c'est possible, c'est parce que ça s'est déjà fait dans le passé. Jacques Parizeau, il a décidé, puis c'était une volonté, puis il a décidé d'aller de l'avant, puis il l'a préparé. Parizeau n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'autres leaders. Et avant qu'il soit là, il n'était pas là non plus. Puis il est arrivé et il a pris la place. Il y en a d'autres qui peuvent s'organiser. Moi, je pense que ça prend une grande volonté. Et ce que Mathieu appelle le détour autonomiste, moi, j'appelle ça une impasse provincialiste. On l'a connu avec même s'il y a des crises, là, je vous parlais de René Lévesque, en 82, on aurait pu la faire l'indépendance suite à la crise constitutionnelle. On ne l'a pas faite à cause de l'abdication de René Lévesque. En 90, avec le lac Meech, Bourassa ne voulait pas la faire. Ensuite, il y a eu la loi sur la clarté. Lucien Bouchard, du Parti québécois, il a refusé de faire l'indépendance. Il l'aurait gagné à ce moment-là. Il a refusé parce que ce n'était pas dans sa ligne, ce n'était pas dans son mandat. Et ensuite, on a eu le scandale des commandites qui a commencé en 2000. À ce moment-là, c'était Bernard Landry, mais qui s'est terminé en 2007 sous Jean Charest. C'est pas les occasions qui ont manqué, je crois, de réaliser l'indépendance et
mais
des
maintenant,
moments.
Là, en 2019-2020, tout le monde vous dit les Québécois ne veulent pas entendre parler de ça. C'est pas le moment d'aller là-dessus.
On dit tout le temps ça, puis c'est pas vrai. On disait ça aussi en 93. Moi, je me rappelle, là, lors des élections, puis au Parti québécois, j'étais à l'exécutif national à ce moment-là. On disait ça aussi à ce moment-là. On disait ça même de notre génération, hein, la génération des X. Ah, les jeunes ne sont pas pour l'indépendance, puis ça ne fonctionnera pas, puis tout ça. Et finalement, après la campagne référendaire, on a vu les résultats. Bien, les gens de la génération X ont voté majoritairement pour l'indépendance. Et donc, moi, je pense que ça prend, premièrement, une volonté de la réaliser. Et le détour provincialiste, que moi j'appellerais provincialiste, on ne peut pas l'empêcher.
Mais c'est pas moi qui le prends, c'est les Québécois qui le prennent.
C'est pas juste les Québécois qui le prennent. Ils n'avaient pas d'alternative à l'élection de 2018. Ils n'avaient pas d'alternative indépendantiste à l'élection de 2018. Donc, à ce moment-là, le détour provincialiste qui est là actuellement, moi, je le dénonce pas. Il est là. Il faut le constater. Mais il faut se rendre compte que dans ce détour-là, c'est pas le détour provincialiste ne nous mènera pas à l'indépendance. Mais il faut prendre les leçons. Encore une fois, comme ça a été fait en 82 avec le lac Meech, comme ça a été fait la loi sur la clarté puis les scandales des commandites, pour pouvoir dire oui, on va réaliser l'indépendance. Mais s'il n'y a pas de leader pour prendre la relève après ce détour provincialiste-là, ça va juste mener nulle part.
Deux, trois choses. Il faut quand même deux, trois. Il y a des éléments de contexte qu'il faut rappeler. 82, c'est juste après 80. Le peuple québécois était dans une situation, on appelait ça le syndrome post-référendaire. Ça compte quand même. Les circonstances historiques comptent. Meech, ensuite, je pense que s'il y a un moment historique, il y a une fenêtre historique favorable à l'indépendance dans ce Québec, c'est le début des années 90, oui, la fin des années 60, mais ça, c'est autre chose, on pourrait y revenir autrement, et ça a échoué à ce moment-là.
Mais c'est vrai qu'après 95, l'appui à l'indépendance reste très élevé.
Lucien Bouchard, c'est un bon exemple, c'est pas que Lucien Bouchard voulait pas faire l'indépendance, c'est qu'il pensait qu'il réussirait pas s'il y allait.
Alors qu'il y avait 50-52%
ensuite, je peux être en désaccord, je suis en désaccord avec Lucien Bouchard sur ça, je pense qu'il a eu tort.
Si on a toujours peur de perdre dans le mouvement indépendantiste, c'est clair qu'on réalisera jamais.
On a quand même gardé d'en perdre deux, et chaque fois qu'on perd, eh bien, le prix à payer est immense.
Okay, 80
nous donne 82, 95 nous donne le plan B, nous donne la diabolisation du nationalisme québécois, nous donne l'assimilation de tout nationalisme au nationalisme ethnique,
nous donne des politiques
d'immigration qui ont contribué à diluer significativement le poids de la majorité historique francophone. Donc, la défaite, il ne faut jamais oublier à quel point la défaite nous casse. Hein? On l'a eu dans notre histoire à plusieurs reprises, après 18, 37, 38, après leur émersion, on pourrait dire, après 80, après 95, et là, on se dit toujours la défaite, c'est pas grave. Non, la défaite est fondamentale. On ne peut pas se permettre, surtout que la prochaine défaite sera la
dernière. Juste là-dessus, merci.
Non, ça, c'est très, très important, là. Parce que cet argument-là, je l'ai tellement entendu dans les courses à chefferie, on ne peut pas se permettre une troisième défaite. Et donc, la meilleure façon de ne pas avoir une troisième défaite, c'est de ne pas l'essayer. Et je suis totalement en désaccord avec les analyses de Mathieu que c'est les défaites qui nous ont fait mal. Ce n'est pas les défaites qui nous ont fait mal, c'est la réaction des leaders. Après 80, quelle a été la réaction de René Lévesque? René Lévesque a dit, je garantis qu'il n'aura pas de référendum à l'élection de 81 dans le prochain mandat. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte à toutes les manigances de Trudeau. Jamais Trudeau aurait pu rapatrier la Constitution comme il l'a fait si René Lévesque n'avait pas fait cette promesse-là. Et si, avec ce rapatriement-là, René Lévesque avait dit, on fait un référendum, on recommence, des grandes chances qu'il l'aurait gagné. Qu'est-ce qui est arrivé en 95? Mais 95, encore, l'abdication des leaders, c'est à ce moment-là Bouchard qui a dit « Non, moi, je ne ferai pas de référendum tant que les finances publiques ne seront pas prêtes. » Et c'est son abdication qui a permis à Dion de pouvoir faire la loi sur la clarté.
Ça, c'est vrai.
Parce que si, après 95, on avait une attitude tout à fait différente, et moi, ce qui m'a fait réfléchir à ça, c'est l'attitude des Écossais. Les Écossais, là, quand ils ont eu 45% là, à leur référendum, eux autres qui ont dit « Hey, on a avancé jusqu'à 85, c'est pas fini, ça va continuer. » Ils ont dit « Just watch us. » OK? Donc, c'est très différent comme attitude. études. Si après 95, on avait lancé une vaste enquête publique sur la tricherie fédérale et on avait dit, on lance l'enquête publique, on dénonce les tricheries et on recommence. Et vous avez vu là, à quel point ça a monté dans les sondages après 95, là, en 96, en 97. Donc, à ce moment-là, ça aurait été probablement possible à réaliser.
On peut discuter sur le fin détail des stratégies possibles, mais est-ce que c'est vrai qu'on a... Prenez Lucien Bouchard.
Est-ce qu'on a manqué des occasions? Évidemment. Est-ce qu'on peut réécrire l'histoire à l'encre du « si » Je ne crois pas.
Non, mais en tirer des leçons, peut-être, pour ne pas répéter...
La leçon que je tire, c'est que le peuple québécois a été... Parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Quand on perd, on a un adversaire devant nous, à Ottawa, et ses alliés au Québec, qui font tout pour nous casser. Et lorsqu'on est en situation... Et quand on perd, eh bien, comme je vous disais, la défaite défait.
Mais vous avez dit tout à l'heure que le Canada est fait de toute façon pour casser le Québec. Alors, est-ce que c'est vraiment à cause...
La question, c'est que quand ils peuvent se permettre une réaction brutale, ils se le permettent.
Et moi, ce que je crois...
Moi, je crois que... Donnez-moi la laïcité. Donnez-moi une critique franche du multiculturalisme. Donnez-moi une volonté claire de réduire les seuils d'immigration. Donnez-moi un nationalisme autonomiste, certes, mais qui affronte le fédéral sur la question du régime. Et comme ça, c'est le cas en ce moment, c'est pas aussi fort que ça le devrait, c'est pas aussi vigoureux que ça le devrait, mais c'est quand même ce qui se passe. Donnez-moi cette confrontation et les Québécois réapprendront la question nationale. Je pense qu'il y a plus de chances, j'en suis convaincu, d'obtenir notre indépendance désirée au terme d'un conflit de régime qu'il faut par ailleurs. Mais pour que vienne le conflit de régime, on ne doit pas toujours s'aplatir. On s'est aplati pendant 15 ans. Mais ça implique qu'on aille sur le front, comme je dis, la critique du multiculturalisme, la laïcité, l'identité.
Là, vous répétez.
Non, parce que je pense qu'on oublie une chose fondamentale. C'est que si on est dans les incantations indépendantistes de notre côté, eh bien, les gens ne suivent pas, puis on parle dans notre monde parallèle, et puis on a l'air des nationalistes canadiens français à l'ancienne en 1969 qui continuent de dire que le Québec est catholique au fond de lui-même.
Mais Mathieu, à côté, est-ce que les souverainistes qui parlent entre eux, c'est pas justement la manifestation de ce qui se passe depuis deux décennies maintenant, c'est-à-dire que vu qu'ils ne mettent pas d'avant leur idée en campagne électorale, ben ils jasent entre eux dans des colloques et des congrès.
Je veux revenir sur sa stratégie. Il dit, donnez-moi des gens qui vont se tenir debout pour la laïcité, donnez-moi des gens qui vont se tenir debout pour la langue. Mais c'est justement, quand les leaders abdiquent, puis on verra ce que fera François Legault, mais quand les leaders abdiquent, la population, là, elle peut pas remplacer ces leaders, là. Et c'est ce qui est arrivé dans le passé. Et je pense qu'il faut prendre la leçon. On ne peut pas changer le passé. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas changer le passé. Mais on peut-tu prendre les leçons? Et au lieu d'avoir cette espèce de mythe-là qui perdure en disant les défaites ont fait tellement mal et on ne peut pas se permettre le troisième. Ben non, ce n'est pas un fait. Ce n'est pas les défaites qui ont fait mal, c'est la réaction des leaders qui ont abdiqué suite aux défaites. Et ça l'a fait mal parce que c'est ça qui a permis aux fédéralistes de, après ça, pouvoir rentrer. Si les leaders n'avaient pas abdiqué et avaient maintenu la pression, avaient dit on va continuer sur l'indépendance. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné cette fois-ci qu'on gagnera pas. Depuis quand un parti, parce qu'il gagne pas une élection, décide de se aborder? Jamais.
On parle pas pourquoi d'élection qu'on fait comme ça les autres,
pour...
on parle de...
Non, mais pourquoi qu'on fait ça pour un référendum? C'est pas parce qu'une idée ne passe pas. Laissez-moi terminer, je vous les ai laissé parler beaucoup. C'est pas parce qu'une idée ne passe pas un référendum qu'on ne peut pas continuer à la faire avancer. Et lorsqu'elle n'a pas passé à 40 % en 80 et à 49,4 % en 95, il y avait quand même pas mal de monde qui était d'accord avec cette idée-là. Donc, cette idée-là, elle est encore très forte. Et malgré que le mouvement souverainiste indépendantiste n'en ait pas vraiment fait la promotion dans les dernières années, cette idée-là demeure encore extrêmement présente. Donc, imaginez si on avait préparé puis qu'on avait dit aux gens, parce que de faire l'indépendance puis de demander aux gens de sauter dans le vide, ça n'a pas même de bon sens. Si on leur disait à quoi va ressembler notre politique d'immigration, justement, à quoi va ressembler notre politique de transport ferroviaire? À quoi vont ressembler nos accords internationaux? Pour donner une idée de ça va être quoi l'indépendance? C'est quoi les avantages? Pourquoi les gens feraient l'indépendance s'il n'y a pas d'avantage à être indépendant? Et c'est, je crois, le rôle, la responsabilité du mouvement souverainiste indépendantiste de démontrer à chacune des occasions, voici le choix canadien et voici le choix de la République du Québec et voici tous les avantages que vous en retireriez.
Là, on retombe dans un vieux débat péquiste, c'est-à-dire que un Québec indépendant, eh bien, il y aura plusieurs possibles politiques ferroviaires, plusieurs possibles politiques. Donc, en privilégier une, c'est mettre la la charrue devant les bœufs. Vous savez, les nations n'avancent pas simplement par des exercices pédagogiques. Les nations avancent par aussi des crises symboliques, des crises qui remettent en question leur définition d'elles-mêmes. C'est ce qui s'est passé en Catalogne tout récemment, si je peux me permettre. L'indépendantisme catalan était relativement faible jusqu'à ce que vienne la crise de régime liée avec Madrid.
Des sur épisodes
la question,
semblables au lac Meech.
Comme vous diriez, laissez-moi terminer. Le lac Meech des Catalans, ils l'ont connu. En ce moment, en Écosse, c'est pas simplement l'action providentielle, c'est pas l'action de la divine providence qui les a relevés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question du Brexit, une question qui touche au régime.
Les indépendantistes sont autrement plus actifs et assumés qu'ici.
Si je peux me permettre, regardez ce qui vient de se passer en Catalogne, décider de se lancer comme ça, s'ils perdent, comme on peut s'y attendre, c'est-à-dire qu'ils ont gagné leur référendum, ils ont fait ce qu'on pouvait, la répression était telle, il est possible que la Catalogne se retrouve dans une situation bien moins avantageuse dans quelques années qu'elle ne l'était il y a quelques temps.
Puis
la défaite fait mal. Alors j'y reviens. Le Québec, pour la première fois depuis 15 ans, recommence à marcher. Le Québec, pour la première fois depuis 15 ans, recommence à s'affirmer. Le Québec redécouvre quelque chose comme certains éléments de fierté. Si on n'est pas capable, nous, indépendantistes, de s'appuyer sur ça pour porter notre projet, pour le pousser plus loin. Si on n'est pas capable de faire ça...
Bon, alors justement, parce que là, le temps est écoulé, à fin pratique, que doivent faire les indépendantistes?
C'est important, l'exemple de la Catalogne, là. Il dit la défaite fait mal. En Catalogne, il n'y a pas eu de défaite. Ils ont eu un grand succès, 90-91% au référendum, un oui. Le problème de la Catalogne, c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts. Ils n'ont pas reçu de reconnaissance internationale parce que c'est de l'effectivité. Pour pouvoir devenir indépendant, c'est de l'effectivité. Puis la Catalogne, contrairement au Québec, n'a pas sa perception des impôts. Donc, tout son budget lui vient de Madrid. Donc, Madrid peut couper le robinet et à ce moment-là, la Catalogne, elle ne peut plus fonctionner. Donc, elle n'avait pas suffisamment préparé. Et donc, ça, je pense qu'il y a
ils
des
sont,
leçons.
Ils sont beaucoup moins autonomes que le Québec.
Ils sont beaucoup moins autonomes que le Québec.
Donc,
il y a des leçons à tirer de ça. Moi, je crois que justement, il faut se préparer beaucoup plus. C'est pas vrai la pensée magique que parce qu'il va y avoir une crise, qu'automatiquement, on va pouvoir faire un pays.
J'ai pas dit ça.
Je pense que s'il y aura des crises qui arriveront, il faudra faire face à ces crises-là, mais il faut être prêt. Parce que s'il n'y a pas de groupes prêts qui sont organisés, qui savent où ils vont aller, comment ils vont réaliser l'indépendance, bien, à ce moment-là, ça n'arrivera pas. C'est de la pensée magique et c'est de se mettre dans une position passive, d'attendre qu'il y ait une crise. Et à ce moment-là, bien, quand il y aura une crise, bien, on va espérer, on va se croiser les doigts que cette crise-là pourra provoquer l'indépendance.
Ça ressemble à ça. Non, d'aucune manière. Alors,
qu'est-ce qu'ils doivent faire, les indépendantistes? On comprend que le chemin va être ponctué de crises à l'occasion, d'événements, d'épisodes qui feront en sorte de nourrir l'option.
Les indépendantistes, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent dans le contexte nationaliste actuel, qu'ils ne dédaignent pas le nationalisme québécois comme ils le font trop souvent, encore tout récemment.
Mais comment font-ils? Le Parti québécois est là.
Dans le débat sur la laïcité, par exemple, les plus zélés, les plus affirmés, les plus volontaires étaient à la CAQ plutôt qu'au PQ, si je peux me permettre. Et comme d'habitude, moi, j'aime dire méchamment que si c'était pas des souverainistes, l'indépendance serait faite depuis longtemps. Ajouter à ça...
Mathieu Noëlette est d'accord avec vous.
Mais non, donc je reviens sur deux, trois éléments. Là, il y a la question du test des valeurs. Eh bien, il y a une vraie faiblesse du point de vue du gouvernement. Sur la question de la langue, le gouvernement, pour l'instant, ne semble pas particulièrement résolu. Sur la question de l'immigration, il s'est contenté de baisses cosmétiques. Un parti indépendantiste qui fonctionnerait bien, à mon avis, déciderait de déborder sur la question du nationalisme. Sur ces enjeux-là, le parti gouvernemental déborderait la CAQ, récupérerait à son avantage l'élan nationaliste qui traverse le Québec actuellement pour le connecter à son projet indépendantiste.
Mais est-ce qu'il y a de la place pour ça aussi?
Oui,
c'est pas justement...
je crois que oui. Et surtout quand on voit le nouveau manifeste que le Parti québécois nous propose, mais qui est un manifeste désincarné, fade, beige, ennuyant, péquiste, quoi. Quand on regarde ça, les souverainistes, en ce moment, croient reprendre... J'y reviens, ne voient pas que ce n'est pas la politique, ce n'est pas une salle de classe, ce n'est pas un concours de communication. La politique, c'est être capable de conjuguer intérêts et passions. Et de ce point de vue, les passions nationales au Québec, on peut parler de plein d'autres sujets, mais les passions nationales, c'est quand ça touche à la question de l'identité. C'est quand l'existence même des Québécois comme peuple est compromise qui se pose la question du pays. On a raté les précédentes crises. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir la prochaine, mais la crise est la condition de la réussite. C'est pas la condition assurée. On peut ensuite se planter. On en est parfaitement capable.
Alors là, les indépendantistes devraient accompagner la CAQ dans sa volonté. Même si vous le dites vous-même, déjà, ça ne va pas très loin, à part la loi 21.
De ce point de vue, ça devrait donner de l'espace d'affirmation pour les indépendantistes.
Alors devrait-il dire il faut aller plus loin moins dans le nationalisme provincial, ou devrait-il dire, il faut, voyez, ça ne peut pas fonctionner dans le Canada, donc il faut faire l'indépendance.
Qui pousse à aller plus loin à chaque fois, qui décide de doubler la cadence. Et là, de ce point de vue, ça va leur dégager un espace politique de manière bien prosaïque à Québec. Et plus largement, ça fait monter les enjeux, ça fait monter les enchères. Et c'est ça qui est important, parce qu'il faut amener le Québec au point de tension, au point de rupture, où les Québécois vont redécouvrir ce qu'ils n'auraient jamais oublié, parce qu'on nous dit, on a déjà fait mille fois la démonstration de l'échec du fédéralisme. Les Québécois l'ont oublié, hélas. Il faut les amener de nouveau à faire l'expérience politique concrète du caractère étouffant du carcan canadien. Et ça, c'est pas pour provoquer une crise dans le vide, c'est pour révéler aux Québécois eux-mêmes le carcan qui les étouffe.
Mais est-ce qu'il n'y a pas meilleure manière de faire ça de faire justement proposer l'indépendance éventuellement
faire la question. Moi, je suis assez surprise, là. J'ai dit, les Québécois ont oublié, ont eu des crises dans le passé, on s'est fait dire non à plusieurs reprises, on a même reçu des claques, là. C'est pas en allant recevoir une nouvelle claque que ça va nécessairement faire en sorte qu'on va réaliser l'indépendance. Puis,
on
a raté des crises. Donc, si on a raté des crises, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait correctement.
Bien sûr.
Donc, c'est ce qu'il faut changer. Donc, ce n'est pas en répétant la même vieille recette qu'on va avoir des résultats différents.
C'est pas la même vieille recette. Donc, la différence, c'est qu'on ne demande rien en ce moment. On affirme.
Mais on s'entend. Il faut se tenir debout pour des dossiers comme la laïcité, pour des dossiers comme la langue. Et là, vous restreignez tout le temps à certains dossiers. Ça vous appartient, mais moi, je pense qu'il faut se tenir debout aussi sur des dossiers comme l'environnement, sur des dossiers comme l'économie. La perte des sièges sociaux, on n'arrête pas de parler de Rona, là, puis qu'on est en train de perdre tous les fournisseurs. Bien, avec l'indépendance, si on était un pays, parce que le Canada, savez-vous qu'ils ont autorisé cette transaction-là? Ils auraient pu la refuser. Ils auraient pu refuser qu'on perde un siège social. Mais non seulement ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas agi, mais ils ont autorisé cette transaction-là. Si on avait eu ces pouvoirs-là, le Québec aurait très bien pu refuser la transaction. Et à ce moment-là, on aurait gardé notre siège social. Il y en a des outils pour maintenir les sièges sociaux au Québec, mais elles appartiennent à un niveau de pays.
François Legault nous suggère d'aller dans des quincailleries québécoises.
C'est ridicule et c'est extrêmement réducteur comme solution, alors qu'il y a une solution qui est simple, qui est facile à appliquer, mais qui appartient à un niveau de pays.
Est-ce que c'est risqué, Mathieu Bocoté, de tout miser par exemple sur la loi 21, de faire c'est quand même l'élément central.
Non,
c'est assez impressionnant de voir comme
la loi 21, c'est le point d'aboutissement, le point de départ. Pour moi, c'est le point de départ. C'est le socle à partir duquel on construit et le socle à partir duquel à mon avis, il faut toujours pousser plus loin l'affirmation de la nation québécoise. Et je suis convaincu d'une chose, le cadre fédéral canadien est tel que très rapidement on rencontre ses limites. Mais c'est de ce point de vue, appelons ça une forme de néo-étapisme. C'est-à-dire que là, puisque c'est pas mon école historique, si je peux me permettre en la matière, mais la loi 21, plus Martine Ouellette dit les questions identitaires, ce auquel je me limite, c'est que ce sont elles qui font fondamentalement bouger le peuple québécois. Faut pas se compter l'histoire des autres. Selon l'histoire.
Il y avait 500 000 personnes dans les rues pour l'environnement.
Je n'ai pas compris que ça a conduit à l'indépendance du Québec. Les Québécois sont venus dans la perspective
la
de l'indépendance.
N'a pas conduit non plus à l'indépendance du Québec jusqu'à date.
Mais vous êtes dans le révisionnisme historique là-dessus. Un instant. C'est la question linguistique qui, dans les années 60, a joué un rôle majeur dans le réveil national québécois, du Bill 63 à la loi 22 et ensuite à la loi 101.
Ça n'a pas été suffisant.
C'est pas suffisant, mais c'est quand même le moteur principal. C'est quand les Québécois sentent que leur existence comme peuple
est compromise. En 95, le débat portait relativement peu sur des questions d'identité, de nationalisme.
Faux et refaux. Quand Lucien Bouchard se mêle de la campagne, c'est quand même un tournant. C'est lorsqu'il mobilise le souvenir de la trahison du régime du Canada, de la constitution qu'ils ont déchirée. Bouchard joue sur toutes les fibres affectives du peuple québécois.
D'accord, ça c'est affectif.
La question d'identité se posait moins à l'époque parce qu'on doutait pas qu'on était un peuple. Maintenant, comme le multiculturalisme nous a tellement ravagé l'esprit que l'idée même que nous sommes un peuple, l'idée même que nous sommes un peuple peut nous surprendre quelquefois. Mais il jouait sur toutes les cordes affectives, l'histoire, la mémoire, la trahison des nôtres, la trahison de nos ancêtres, la constitution de nos pères, et ainsi de suite. Si c'est pas de l'identité, c'est quoi? C'est l'identité version 95. Et de ce point de vue, c'est le nationalisme dans sa charge existentielle qui peut nous ramener vers le pays. C'est tout sauf une régression, mais quelquefois, le petit détour peut nous conduire beaucoup plus loin que ce mur qu'on cherche désespérément à fracasser avec sa tête.
Là, on a trouvé un point d'accord, le multiculturalisme.
Le multiculturalisme, c'est extrêmement toxique et nocif. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as lu l'article que je t'ai déposé, mais le multiculturalisme, c'est finalement diviser les gens en ghettoisation, en ghetto, et c'est plutôt raciste.
Faudra faire une autre émission
là-dessus. Le néo-étapisme, là, Moi, je suis pas d'accord avec ça. L'étapisme a été introduit au Parti québécois par Claude Morin. Il faut se rappeler que Claude Morin est un agent de la GRC, là. Et l'étapisme a justement fait en sorte que le Parti québécois, au lieu de faire la promotion de l'indépendance, a fait de la gouvernance provinciale.
Mais il s'agissait de dire, effectivement, les Québécois sont pas prêts à ce qu'on aille au bout de la démarche tout de suite. Non, nous allons commencer par faire un bon gouvernement.
Le premier étapiste
dans l'histoire. Faut pas tirer sur la fleur pour la faire pousser.
Le premier étapiste dans notre histoire, c'était une erreur.
Mais vous prônez le second.
Parce que les circonstances ont changé. Parce qu'on avait un formidable élan, c'était l'élan de la Révolution tranquille, les énergies accumulées pendant des décennies, le sentiment d'une correction historique nécessaire. À l'époque, il était nécessaire, puis d'ailleurs, si, je vous le disais tantôt en clin d'œil, si à la fin des années 60, Johnson avait profité, puis c'était pas mort aussi, ça compte, mais avait profité des circonstances Vive le Québec libre, avait décidé de porter jusqu'à son terme égalité ou indépendance.
D'ailleurs, on sait pas trop pourquoi il est mort, hein.
Ça, je me prononce pas là-dessus, mais la fin des années 60, il y a eu une vraie fenêtre historique qui a échoué. La première. Ensuite, il y a probablement le début du mandat péquiste où il aurait fallu foncer. Ensuite, il y a les années 90. Mais le monde a changé, les circonstances ont changé.
Mais vous pensez pas que les Québécois ont mûri à travers tout ça?
Non.
L'appui à l'indépendance est plus élevé aujourd'hui qu'elle ne l'était à cette époque-là.
À la question dure, là, c'est vrai.
Oui, donc, je comprends pas pourquoi on diminue autant le climat actuel pour dire on n'y arrivera pas. C'est exactement la même pensée à l'époque où disait les Québécois ne sont pas prêts. À force de penser comme ça, je pense qu'il faut travailler dans une perspective où on va faire avancer les choses et arrêter de se mettre des blocages. Les Québécois ne sont pas prêts, on va attendre qu'ils soient prêts, on va attendre les conditions gagnantes quand les Québécois sont prêts. Ça sera le choix des Québécois, mais ce choix-là ne pourra s'exercer que lorsque l'alternative leur sera présentée. Le mouvement indépendantiste, son rôle et sa responsabilité, c'est de maintenir vivante l'option, ce qui n'a pas été le cas en 2018.
Mais là, Mathieu Bocoté est attendu pour un dîner. Que doivent faire les indépendantistes,
Mathieu Bocoté? Les indépendantistes doivent évidemment proposer l'indépendance du Québec. J'ai jamais dit le contraire une seconde dans ma vie.
Mais quand Martine Ouellette le dit, vous dites, c'est une impasse, c'est répéter un mantra.
Non. Ce que je dis, c'est quand le Bloc québécois réussit à renaître de ses cendres, à obtenir une députation, à ramener les nationalistes québécois à la Chambre des communes, de manière absolument inattendue, à poursuivre l'élan national engagé le 1er octobre 2018 avec l'élection de la CAQ, et que tout ce qu'on trouve à dire, c'est qu'il n'a pas été fidèle à la doctrine et aux cinq rideaux. Devant cela, moi là, je suis critique, je suis sévère. Je pense que l'indépendance du Québec n'avance pas seule. Elle a besoin de son étendard, mais elle n'avance pas que sous son étendard. Je pense que à l'échelle de l'histoire, si on réussit notre indépendance un jour, l'élection de François Legault va avoir été un pas vers l'indépendance du Québec. Je pense que la victoire du Bloc va avoir été un élément dans ce renouveau nationaliste au Québec. Je pense que tout ce qui alimente le renouveau nationaliste québécois en ce moment contribue à la réactivation de l'idée d'indépendance. Et de ce point de vue, que les indépendantistes ne croient pas avoir le monopole sur l'idée d'indépendance, elle prend d'autres chemins que ceux qu'ils souhaiteraient. Soyons-en conscients, sachant qu'il va falloir ajouter des gens qui n'ont pas le même rapport que nous à l'indépendance. Moi, je vote oui à la question, voulez-vous vous séparer du Canada demain matin avec 50% de perte de votre niveau de vie? Oui, je vote oui à ça, parce que je crois à la survie de mon peuple.
Mais on ne perdra pas 50% de notre niveau de vie.
C'est juste une image pour dire que moi, je crois que c'est fort, l'indépendance politique est un bien en soi. Mais il va falloir gagner avec nous des Simon-Jeanin Barrette, des Mario Dumont, il va falloir gagner, faites la liste de tous ces caquistes de bonne foi qui un jour vont devoir voter oui. Ben, ça, fondamentalement, ça implique qu'on intègre dans notre univers mental leur démarche, leur univers mental, leur représentation du Québec, et si on ne le fait pas, on se condamne à l'enfermement doctrinal. C'est agréable, on est dans l'entre-soi, mais on perd.
Martine Ouellette, que doivent faire les indépendants?
On ne convaincra pas les indécis en étant gênés, en cachant notre option. On ne convaincra pas les indécis en ne s'assumant pas. C'est pas vrai quand on ne rayonne pas positivement, qu'on est capable de convaincre. Quand on cache notre option, quand on est gêné de qui on est, on ne convainc personne. Et c'est ça. Moi, je crois, lorsqu'il y aura un groupe, lorsqu'il y aura une équipe qui sera convaincue, qui avancera, qui sera organisée, qui sera préparée, qui fera ça aussi dans la bonne humeur. Parce que réaliser l'indépendance, là, c'est pas de la mauvaise humeur. Et on fait pas ça contre le Canada, on fait ça pour le Québec. Et moi, je dirais même plus...
On fait ça contre ce que le Canada nous fait aussi.
Pas juste... pour le Québec, on fait ça pour la planète. Oui, parce qu'on peut pas se développer à l'intérieur du Canada et toute l'histoire l'a démontré. Donc, je pense que faut pas oublier que toute l'histoire a fait en sorte que le Canada a juste voulu nuire au Québec. Donc, à ce moment-là, et c'est pas, le Canada, c'est pas deux peuples fondateurs, là. Ça, c'est un mythe. Ça a été deux peuples conquis. Donc, ce que j'appelle les Québécois d'origine canadienne-française et les Québécois d'origine autochtone. C'est ça, la fondation du Canada. Et donc, je pense qu'il faut revoir notre histoire, se réapproprier notre histoire pour être capable de travailler sur le futur.
Dans le concret du concret, Bocoté dit, alors, il faut accompagner les caquistes et puis se tenir prêt pour les lendemains favorables à l'indépendance.
Moi, je crois que les caquistes vont travailler à améliorer la province du Québec dans le Canada. Il faudra les challenger pour pousser ça plus loin, pour leur montrer à quel point c'est une impasse et qu'ils vont frapper un mur. Et à chaque fois qu'ils frappent le mur...
Vous dites un peu la même chose.
De dire que c'est correct, mais dans l'intervalle, il faut préparer les alternatives. Et moi, je pense qu'il faut préparer une constitution de transition. Il faut préparer des projets de loi. Au début, oui, le pays du Québec choisira son propre gouvernement, mais on va quand même devoir, dans la transition, faire une nouvelle loi sur l'immigration.
Mais là, il y a des élections en 2022. Là. Le Parti québécois se présente devant l'électorat en disant quoi? Vous votez pour nous, vous votez pour l'indépendance,
ben, écoutez,
votez
pour
nous,
puis
on est les cousins de la CAQ.
Je ne sais pas ce que le Parti québécois fera, parce que le Parti québécois avait bien souvent des bien beaux programmes, puis ils peuvent se faire un très beau congrès. Le problème, c'est pas, puis il peut être beige ou mièvre, mais il peut être très beau aussi sur leur programme du Parti québécois, mais s'ils ne le mettent pas en application, je veux dire, ça sert à rien. Donc, le problème, c'est d'avoir une volonté de réaliser l'indépendance dès qu'on a le pouvoir. C'est de ne pas prendre le pouvoir pour améliorer...
Alors, donc, vous dites, il faut aller en élection là-dessus.
Il faut aller en élection
même si
en
Mathieu
disant
Bocoté
qu'on
dit,
va réaliser l'indépendance.
Les Québécois sont pas prêts, puis on va s'enfermer.
Bien, premièrement, on verra si les Québécois sont prêts. Et si les Québécois sont pas prêts, bien, à ce moment-là, le parti sera pas porté au pouvoir. Et il fera son travail dans l'opposition. Et si les Québécois sont prêts, bien, le parti sera porté au pouvoir et il aura légitimement... Le mandat de réaliser l'indépendance et d'utiliser les fonds publics pour se faire, parce qu'il ne faut pas se gêner. Je ne vois pas pourquoi on se gênerait d'utiliser les fonds publics pour réaliser l'indépendance alors
qu'il faut qu'il assume l'option.
Je préfère infiniment un parti nationaliste incomplet au pouvoir qui réactive la conscience historique des Québécois, qui réactive leur désir d'action, plutôt que le Parti libéral qui travaille de manière presque consciente à notre oblitération comme nation.
On s'entend là-dessus.
Ben,
là.
Ce qui veut dire que je préfère la CAQ au pouvoir qu'au libéral au pouvoir, et je préfère la CAQ au pouvoir qu'au PQ dans l'opposition.
Je préfère un parti indépendantiste au pouvoir que la CAQ au pouvoir.
Oui,
voilà.
D'accord, bien sûr.
Vous pensez que ça se peut pas?
Non, moi, je crois que si on... Évidemment, c'est une question de contexte historique. Le contexte pèse en histoire. Si on peut gagner une élection...
C'est pas juste le contexte historique, c'est la volonté.
La volonté est fondamentale, mais ensuite, la volonté, elle n'est pas désincarnée. Il faut quelqu'un pour la porter.
Mais il n'y en a même pas de volonté actuellement.
Un instant. On verra, il va y avoir une course à la chefferie, on va voir ce qui va se dire là-dedans. Mais moi, je crois qu'il y a une chose, il y a plus de volontarisme chez François Legault en ce moment que chez bien les chefs péquistes récents. Ça compte quand même d'une certaine manière sur la question nationale, j'entends. J'ai de l'estime pour ceux qui ont été chefs du Parti québécois, il n'y a pas de doute là-dessus, mais Legault a réussi ce que les autres ont échoué. Ça compte quand même sur certains points. Et j'y reviens, un parti indépendantiste doit évidemment proposer l'indépendance du Québec, mais si, je le redis, imaginons ce scénario, enlevant
Alors, la... ce qu'il faut qu'ils disent,
mais enlevant la CAQ juste un instant.
Oui, mais dans un second mandat.
Non, je m'en fiche, ça, c'est complètement secondaire.
Ben, c'est-à-dire que... Non, c'est pas
secondaire. Tant sur la question, juste une seconde, de la CAQ. Imaginons qu'un Parti québécois se dise, soit je décide de faire une élection sur le thème de l'indépendance et je suis condamné à la défaite, ou je fais une élection en disant
condamné à la défaite,
juste
encore
une
seconde, là une prémisse.
S'il vous plaît.
Non, mais c'est parce que c'est des prémisses de base.
Ben, on n'a pas les mêmes prémisses.
Lorsqu'on parle de
prémisses,
c'est juste finir Mathieu Bocoté.
Si, je préfère un Parti québécois, si le Parti québécois est dans la situation où il dit, bon, si je fais une espèce de campagne quasi-référendaire, je perds, mais si je fais une campagne sur des thèmes nationaux, nationalistes, identitaires et tout ça, je gagne et je peux faire de réels progrès au Québec qui nous ramènent tôt ou tard d'une manière ou de l'autre du conflit avec le Canada. Je préfère un parti nationaliste au pouvoir incomplet qu'un parti indépendantiste au pouvoir dans l'opposition.
Alors on a bouclé la boucle, on est revenu au point de départ.
De ce point de vue, les indépendantistes doivent préparer l'indépendance, évidemment, mais il y a une manière de le faire et c'est certainement pas, comme j'y reviens, dans cette espèce de discours incantatoire qui confond politique et pédagogie et qui finalement sermonne tous ceux qui sont pas indépendantistes maintenant de pas être des nationalistes à bonne manière.
Je trouve ça épouvantable, ces phrases-là.
Épouvantable.
D'accuser les gens de faire ça.
Je vous critique, je vous accuse pas.
Non, mais je fais pas ça. C'est
on
des
appelle
fausses
ça un
critiques.
Vif désaccord.
C'est pas des critiques, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Donc, j'ai jamais fait d'incantation. C'est justement plutôt les gens qui sont attentistes, qui ne font que parler des incantations, mais qui ne disent pas dans le concret ce que ça veut dire. Mais si on n'est pas d'accord avec les prémisses de base, moi, je crois que la prémisse de base, que de parler d'indépendance, ça nous fait perdre, ça, c'est une prémisse de base de peur. C'est une prémisse de base que je crois qui est fausse et qui va mener à des conclusions qui sont fausses. Et moi, je vais vous donner des exemples. Cette prémisse de base-là, c'est, dans la réalité, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Quand est-ce les deux seules fois que le Parti québécois a réussi à défaire le Parti libéral au pouvoir? C'est quand ils proposaient de réaliser l'indépendance dans le prochain mandat. C'est en 76 où ils ont défait les libéraux et c'est en 94. Et ces deux fois-là, ils promettaient de réaliser l'indépendance dans le mandat. Donc, de conclure que d'aller pour l'indépendance, c'est de nécessairement de faire en sorte que le parti va perdre.
J'ai pas dit nécessairement.
Non.
C'est juste une question de contexte.
Non, c'est pas juste une question de contexte. C'est de dire que d'y aller pour l'indépendance et de perdre. Donc ça donne l'information, ça donne la perception à l'ensemble des gens. Mais si on va pour l'indépendance, ça va nous faire perdre des votes. Et ça, c'est extrêmement ancré à l'intérieur du mouvement indépendantiste, la peur de perdre. Et c'est une fausse peur parce que le passé ne démontre pas.
Mais clairement,
Martine Ouellette, vous n'arrivez pas à convaincre une majorité de vos collègues indépendantistes de penser comme vous. Vous êtes vastement minoritaire à dire ce que vous dites là aujourd'hui.
Est-ce que c'est parce que vous lisez mal la situation?
On est tous dans l'erreur.
Clairement, c'est un problème. Et moi, je crois qu'il faut regarder... L'indépendance n'est toujours pas réalisée. Fait qu'il y a toujours bien un problème dans le mouvement indépendantiste, là. C'est pas juste une question de contexte. On a eu plusieurs occasions qui n'ont pas été utilisées. Donc, il y a un problème dans le mouvement indépendantiste. Et moi, je pense qu'on doit changer d'attitude, effectivement. Effectivement, dans une société, lorsqu'on apporte des changements, parce que l'indépendance, c'est un grand changement, bien, c'est comme des idées en marketing. Quand j'ai fait mes cours MBA, il y a des gens qui sont proactifs et il y a des gens qui sont attentistes. Le problème qu'on a dans le mouvement indépendantiste actuellement, c'est que les attentistes essaient d'empêcher les proactifs de faire leur travail avec le genre d'attaque que je reçois de M. Bock-Côté de dire que c'est incantatoire.
Il y a les volontaristes et les attentistes. Il y a ceux qui veulent puis il y a ceux qui ne veulent pas vraiment.
Ils veulent.
C'est très satisfaisant moralement de se présenter comme tel.
Vous détournez mes propos.
Pas du tout.
Je n'ai jamais dit qu'ils ne veulent pas. Ils sont en attente des circonstances, que ce soit une crise, que ce soit une action pour l'indépendance du Québec. Non, mais parce qu'il ne me laisse pas parler.
Arrêtez ça. Il me laisse pas parler. Il y a plus d'actions pour l'indépendance du Québec, je le redis, dans la loi 21, que dans tout ce que vous allez faire dans les prochaines années, j'en ai bien l'impression. Ça, c'est une attaque. Et ensuite, je le redis sur le fond des choses, donnez-moi Jacques Parizeau demain. Trouvez un chef qui est capable de porter ça.
Mais pour être volontariste,
à la hauteur de ce que l'on souhaite...
Est-ce que ce n'est pas là aussi une question de contexte?
Oui, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui préparent le terrain idéologique, il y a un leader qui émerge. En 87-88, le clivage idéologique est approximatif. Hein. Le contexte idéologique est approximatif. Amenez-nous un Jacques Parizeau, amenez-nous un chef qui a une capacité de porter ce volontarisme immense. Et là, effectivement, les circonstances vont changer. Mais tant qu'on n'a pas une figure comme ça...
Vous avez eu Péladeau il n'y a pas longtemps.
Quand Péladeau est arrivé en 2014, j'avais dit c'est la première fois depuis 95, en fait, qu'on a un chef qui croit qu'il va faire l'indépendance. À ce moment-là, il y a eu un moment pour le volontarisme. Il y a eu un vrai moment pour le volontarisme. Les circonstances en ont voulu autrement. Mais il faut pour ça un chef qui croit...
C'est trop facile de dire les circonstances en ont voulu autrement. À chaque fois, c'est votre argument. Les circonstances en ont voulu autrement.
Je ne prétends pas être maître à bord. Je regarde les circonstances. Elles m'échappent. Je ne les définis pas. Elles s'imposent à nous. On doit les penser.
Ce n'est pas les circonstances.
Mais moi, je n'entends pas Mathieu Bock-Côté, Martine Ouellette, qui remet en cause vos convictions ou qui fait des attaques, comment dire, dures ou personnelles. Elle vous dit que vous ne vous entendez pas sur la prémisse.
Je ne lis pas du tout la situation comme elle. Je pense que fondamentalement, une approche comme celle qu'elle propose, quand elle était au Bloc, quand elle se présentait à la chefferie du PQ, je pense que globalement, si on avait su sa politique quand elle était au Bloc, le Bloc, on aurait mis la clé dans ses rues il y a deux semaines. Je pense qu'on peut être en désaccord.
Il dit ça complètement en l'air. Lorsque j'étais chef du Bloc québécois, les appuis hors période sabotage, là, les appuis ont monté jusqu'à 30%.
On appelle ça désaccord. Il y a eu du sabotage.
C'était pas juste du désaccord. C'était du sabotage parce que j'avais été élu démocratiquement et les gens coulaient des informations dans les médias.
Il nous reste une minute. Restons sur les idées plutôt que sur le contexte humain au Bloc.
Moi, je pense que c'est important qu'on puisse débattre. On peut être en désaccord avec certaines prémisses. Mais ça fait pas en sorte que des attaques personnelles soient correctes. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention dans le mouvement souverainiste indépendantiste. Il va falloir apprendre à débattre à partir des prémices sans tomber dans les attaques personnelles comme ce que j'ai reçu. Moi, je pense que c'est important. On peut ne pas être d'accord sur certaines stratégies. On est d'accord sur bien des points. On est d'accord qu'il faut se tenir debout sur la laïcité, sur la langue. Mais je crois qu'il va falloir être proactif.
Notre musique est en marche, chers amis. Consolons-nous. Vous êtes d'accord sur la question du multiculturalisme. On fera une autre émission là-dessus, puis ce sera sans doute plus serein vers la fin du débat quand les esprits sont échauffés. Vous avez fait un sacré beau travail, tous les deux, pour bien nous expliquer vos points de vue respectifs. Puisse l'électeur et l'auditeur faire son choix pour les prochaines élections, tiens, ou pour l'avenir du Québec. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Nick Payne qui vous dit à lundi.